Parmi toutes les catastrophes naturelles possibles et inimaginables, le tremblement de terre est probablement celle qui cause le plus d'angoisse. C'est compréhensible, parce que un tremblement de terre est presque toujours suivi de nouvelles secousses, généralement moins fortes, mais suffisamment inquiétantes pour garder la population dans un état de panique. Si le séisme a lieu en mer, il déclenche un tsunami dont les conséquences peuvent être bien plus graves que le tremblement de terre initial. De plus, comme les pays du tiers-monde et bien d'autres n'ont pas de système d'alerte en place, les gens profitent paisiblement de la plage quand tout à coup surgit une vague de 20 mètres de haut qui balaie tout sur son passage. Dans le livre de l'Apocalypse, le premier séisme de très forte intensité a lieu quand l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ, ouvre le sixième sceau des jugements de Dieu. Jean rapporte, « Il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac. La lune tout entière devint rouge comme du sang. Le second tremblement de terre a lieu après l'ouverture du septième sceau. Jean dit alors, l'ange prit l'encensoir, le remplit de braises ardentes prises sur l'autel et le lança sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Le troisième séisme nous est raconté dans le chapitre 11 de l'Apocalypse que je continue de lire. Ils, les deux témoins, montèrent au ciel dans la nuée sous les regards de leurs ennemis. Au même instant, se produisit un grand tremblement de terre qui fit s'effondrer la dixième partie de la ville et, dans ce tremblement de terre, 7000 hommes périrent. Les survivants furent saisis d'effroi et rendirent hommage au Dieu du ciel. Ce tremblement de terre accompagne la montée des deux témoins au ciel comme pour annoncer « Maintenant, place au jugement ». La mention par Jean de 7000 hommes. Que de personnes signifie qu'il s'agit des gens influents, des responsables du gouvernement de l'Antichrist. C'est donc probablement le quartier des dirigeants politiques qui s'est effondré. Ce violent tremblement de terre est limité à Jérusalem et à ses environs immédiats. Les survivants de la ville, une fois, n'est pas coutume, ont une réaction saine face à cette catastrophe, puisque non seulement ils sont saisis d'effroi, mais ils reconnaissent enfin la souveraineté de Dieu dans les affaires des hommes. Dans les Écritures, rendre hommage au Dieu du ciel est généralement la marque d'une repentance sincère. Jean ne nous dit pas qui sont ces survivants, mais il s'agit sans doute de Juifs. Mais alors, on ne comprend pas trop bien ce qu'ils font dans Jérusalem, vu qu'ils sont pourchassés et persécutés à mort. Je continue le chapitre 11. Le deuxième malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient rapidement. L'intermède entre la sixième et septième trompette, qui commence avec le chapitre 10, se termine ici avec la fin du deuxième malheur. Mais un troisième malheur va encore arriver. Tous trois ont été annoncés par un aigle qui planait au zénith. Et Jean rapporte alors, « Je l'entendis crier d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre !» Quand retentiront les trois trompettes que les trois derniers anges vont faire sonner. » Il ne reste plus qu'une sonnerie de trompette, la septième, et elle ne saurait tarder, en fait, elle est imminente, et dès qu'elle retentira, débutera l'heure du jugement des sept coupes. Comme Jean ne mentionne plus le troisième malheur, c'est qu'il correspond à la septième trompette. La sonnerie de cette septième trompette a lieu dans la dernière année des sept ans de tribulation, et marque un tournant dans le livre de l'Apocalypse, car il déclenche les derniers jugements appelés les sept fléaux ou les sept coupes de la colère de Dieu. Ces jugements sont de courte durée, mais très dévastateurs, et conduisent au retour du Seigneur sur terre et à l'établissement de son règne dominant. Cependant, les sept derniers jugements ne sont décrits qu'à partir du chapitre 16, car les chapitres 12 à 15 sont une sorte de parenthèse qui décrit les événements de la fin des temps selon une perspective différente. En effet, les chapitres 12 et 13 considèrent la tribulation au travers de six grands personnages qui jouent un rôle important dans la seconde moitié des sept ans de tribulation. Il s'agit d'une femme enveloppée du soleil représentant Israël, un dragon énorme, couleur de feu, qui avait sept têtes et dix cornes, et qui représente Satan. Ensuite, on a un garçon qui représente Jésus, l'archange Michel qui expulse du ciel Satan et ses démons, puis la bête qui monte de la mer, qui est l'Antichrist, et enfin la bête qui monte de la terre et qui est le faux prophète. Les chapitres 14 et 15 considèrent les événements de la tribulation selon la perspective céleste, le point de vue du royaume des cieux. Chronologiquement parlant, les chapitres 12 à 15 ne font pas progresser le récit proprement dit, mais sont un développement de ce qui se passe sur terre et dans les cieux jusqu'au moment de la sonnerie de la septième trompette. Entre autres, ces chapitres font la chronique de la montée au pouvoir de l'Antichrist. Je continue le texte du chapitre 11. Le septième ange sonna de la trompette, et des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et à son Christ. Il régnera éternellement, comme je l'ai dit. Les effets sur terre de cette sonnerie sont différés tout comme ils l'ont été après l'ouverture du septième sceau. Par contre, dans le ciel a lieu une réaction immédiate qui est l'expression d'une grande joie à cause de ce qui va se produire. Les habitants des cieux se réjouissent, car ils voient la lumière au bout du tunnel. Satan va perdre son titre de prince de ce monde, et la fin de la longue rébellion du diable et de l'humanité impie contre l'autorité de Dieu marque le début du règne de Jésus comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Le royaume de Dieu sur terre est d'ailleurs le point d'ordre de toute l'histoire de la rédemption. Quand dans le désert, Jésus est tenté par Satan, il refuse évidemment de céder aux pressions du diable et de s'approprier la souveraineté de la terre en acceptant les conditions de Satan, ce qui lui aurait permis d'éviter la croix. Je rappelle ce passage de l'Évangile selon Luc. Le diable l'entraîna sur les hauteurs, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera pour toi. » Jésus lui répondit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Maintenant donc, le Seigneur, comme champion de l'homme, va reprendre à Satan le titre de propriété du monde qu'il a légalement acquis par sa mort sur la croix, ce qui a satisfait la justice de Dieu. Quand Jean dit « Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ, il régnera éternellement », on peut faire quatre remarques intéressantes. Premièrement, en grec, le temps du verbe passé exprime un événement qui n'a pas encore eu lieu, mais qui est tellement certain qu'on peut le considérer comme un fait accompli. C'est ce qui explique pourquoi les cieux acclament déjà le roi avant qu'il règne. Deuxièmement, Alors que dans le Nouveau Testament, le mot grec pour « Seigneur » est généralement attribué à Jésus. Dans l'Apocalypse, il désigne plutôt Dieu le Père. Troisièmement, le mot pour « royaume » est au singulier parce que tous les empires et tous les pays, quelle que soit leur langue, culture ou système politique, constituent en réalité un seul royaume sur lequel règne Satan. D'ailleurs, dans sa seconde épître aux Corinthiens, Paul l'appelle « le Dieu de ce monde » et dans son épître aux Éphésiens, « prince de la puissance de l'air » et dans son évangile, Jean le nomme « prince de ce monde ». Même si c'est Dieu qui établit les gouvernements humains, ils sont dans le giron du diable parce qu'ils refusent de se soumettre à Jésus-Christ. La quatrième remarque qu'on peut faire concernant le changement de pouvoir sur ce monde est que Jean ne fait pas de différence entre le millénium et le royaume éternel parce qu'à la fin des 1000 ans, le royaume terrestre devient simplement le royaume éternel et Jésus continue à régner au siècle des siècles. Je continue maintenant le texte du chapitre 11. Et les 24 vieillards qui siègent devant Dieu sur leur trône se prosternèrent la face contre terre et adorèrent Dieu. Au début de la prophétie, dès que Jean arrive au ciel, il voit le trône de Dieu, puis autour de celui-ci, les 24 vieillards ou anciens, qui, comme je l'ai dit, représentent l'Église glorifiée dans les cieux. Et ici, dans un geste d'adoration, il salue solennellement la sonnerie de la 7e trompette. Et c'est la 4e fois qu'on les voit se prosterner face contre terre. Je continue le texte. Ils adorent Dieu en disant, « Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, nous te disons notre reconnaissance, car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour rétablir ton règne. Dieu est adoré pour ses attributs, et tout d'abord parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Un mot qui est utilisé 10 fois dans le Nouveau Testament, dont 9 dans l'Apocalypse. Puis Dieu est loué parce qu'il est et était, c'est-à-dire qu'il est éternel. Il est de toute éternité, il n'a ni commencement ni fin. Ce concept est difficile à saisir, parce que tout ce que nous connaissons a un début et une fin. Alors, on n'arrive pas à imaginer quelqu'un qui a toujours été et qui est indéfiniment. Jean a déjà dit de Jésus qu'il est le Seigneur et il a confirmé qu'il est celui qui est, qui était et qui vient. Et les 4 êtres vivants ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Ici, par contre, Dieu est défini comme « qui est et qui était ». L'ajout « qui vient » ne figure plus parce que le règne de Dieu est déjà vu comme ayant commencé. La 3e raison pour laquelle Dieu est adoré est parce qu'il a mis en œuvre son immense puissance pour établir son règne. Le temps du verbe « mis en œuvre ». Parfait signifie que Dieu a déjà exercé sa puissance et qu'il va poursuivre son action. Je continue le texte. Les nations s'étaient soulevées dans leur fureur, mais ta colère est arrivée. Le verbe traduit par « s'était soulevé » indique une hostilité profonde, violente et permanente des nations païennes impénitentes envers le Seigneur. Aveuglées par leur haine, elles s'assembleront pour mener campagne contre lui lors de la bataille d'Armageddon, mais seront toutes anéanties. Dans le psaume 2, le psalmiste écrit « Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations, et pourquoi donc trament-elles tous ces complots inutiles ? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction ?» Dans la phrase « Mais ta colère est arrivée », le temps du verbe exprime un événement futur mais tellement certain qu'on le considère comme un fait accompli. La colère de Dieu bouillonne, et il va la manifester avec force au son de la septième trompette, la dernière année des sept ans de tribulation. Je continue le texte. L'heure est venue où tous les morts seront jugés, et où tes serviteurs, les prophètes, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui te révèrent, petits et grands, seront récompensés. La septième trompette déclenche les coupes de la colère de Dieu, mais aussi tous les événements qui marquent la fin de l'humanité, ce qui inclut le jugement des morts, les bons et les mauvais. À Seigneur tout honneur, le premier acte divin consiste à récompenser ceux qui le méritent. Mais il faut savoir que c'est une grâce que le Seigneur fait à ses fidèles serviteurs, car il ne doit rien à personne. Cela dit, la parole de Dieu promet des récompenses et des couronnes, et plus loin dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit « Oui, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. » Les prophètes d'antan ont fait l'objet de beaucoup d'oppositions, mais comme ils sont restés fermes dans leur foi et fidèles dans leur ministère, leur ténacité et leur consécration seront révélées au grand jour et récompensées. Dans l'au-delà, à un moment ou à un autre, l'œuvre individuelle accomplie par tous les croyants de tous les temps sera passée en revue. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. » Les croyants du Nouveau Testament verront leurs œuvres évaluées au moment de l'enlèvement de l'Église, et ceux de l'Ancien Testament, juste avant le début du millénium. Tout le monde n'obtiendra pas un premier prix, c'est sûr, mais quant à moi, je me contenterai d'un accessite. Je continue le texte. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Ce ne sont pas les pollueurs qui sont visés, mais tous les pécheurs impénitents. Après avoir créé Adam et Ève, Dieu leur confie la gérance de la terre, mais l'homme est en train de la détruire. Sa convoitise, son avidité et sa cupidité sont à l'origine de tous les maux écologiques dont souffre la planète. Aujourd'hui, par exemple, on parle plutôt de la déforestation de la forêt amazonienne parce qu'on est fatigué d'entendre que les océans sont des poubelles. Je continue de lire le chapitre 11. Alors s'ouvrit le temple de Dieu qui est dans le ciel, et le coffre de son alliance y apparut. Ce chapitre se termine d'une manière extraordinaire. Jean va et vient tout au long de sa vision. Il se trouve dans le ciel quand soudainement, il voit le temple de Dieu et le coffre sacré, ou coffre de l'Alliance. On sait que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de temple parce que, plus loin, Jean écrit « Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. » Cependant, et assez curieusement, à ce moment, il y a un temple dans les cieux. Cette constatation par Jean n'est pas vraiment une nouvelle révélation, car dans le livre de l'Exode, on apprend que l'Éternel dit à Moïse « Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il contiendra, et vous exécuterez tout exactement selon ce modèle. » Or, tout porte à penser que le modèle que Dieu montre à Moïse est justement le temple céleste. En effet, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et il n'y a pas de pardon de péché sans que du sang soit versé. Ces objets, le tabernacle et tous les ustensiles du culte, qui représentaient des réalités célestes, devaient donc être purifiés de cette manière-là. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs. En d'autres mots, tout comme le sang des animaux purifie les objets du temple terrestre, il fallait que leur contrepartie céleste soit également purifiée, mais par un sang pur et parfait, celui de Jésus. Après sa mort, il est monté au ciel et a purifié le temple céleste et ses ustensiles en leur appliquant son propre sang. En effet, l'auteur de l'Épître aux Hébreux finit sa pensée en disant « Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré, c'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. » L'équivalent spirituel du temple de Jérusalem se trouve donc au ciel, et c'est celui-ci que j'en vois. Le tabernacle terrestre comporte deux parties. Le lieu saint est le lieu très saint qui est fermé par un épais rideau. Or, seul le grand prêtre y a accès une fois l'an pour le Yom Kippour, et il doit y pénétrer avec le sang frais d'un taureau égorgé. Sinon, il est terrassé sur place. Mais ici, Jean constate que le lieu très saint est grand ouvert. Le coffre de l'Alliance qu'il voit symbolise la présence de l'Éternel, et c'est là que sous le couvercle du sang s'établit la communion entre Dieu et son peuple. Je finis maintenant de lire le chapitre 11. « Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. » L'apparition du coffre de l'Alliance est scandée par un spectacle son et lumière majestueux. Ce genre de manifestation est associé au trône céleste, c'est-à-dire à la sainteté de Dieu ainsi qu'à ses jugements. En effet, quand Jean arrive dans les cieux, il décrit le trône puis dit « Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. » Plus tard, avant le déclenchement des jugements des trompettes, Jean dit « Un ange prit l'encensoir, le remplit de braises ardentes prise sur l'autel et le lança sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. La sonnerie de la septième trompette, la dernière, qui, dans la dernière année des sept ans de tribulation, déclenche les jugements des coupes, va proclamer haut et fort, et avec perte et fracas, que Jésus-Christ est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le seul souverain digne de régner. Il vient pour reprendre le gouvernement de la terre à Satan, l'usurpateur, et à ses émissaires, les hommes impies. L'histoire progresse inexorablement vers son dénouement. Le point d'orgue de l'histoire de l'humanité, qui est le règne terrestre de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ.